225. La dissertation suivante, donnée spontanément par un esprit supérieur qui s'est révélé par des communications de l'ordre le plus élevé, résume de la manière la plus claire et la plus complète la question du rôle des médiums. Quelle que soit la nature des médiums écrivains, qu'ils soient mécaniques, semi-mécaniques ou simplement intuitifs, nos procédés de communication avec eux ne varient pas essentiellement. En effet, nous communiquons avec les esprits incarnés eux-mêmes comme avec les esprits proprement dits par le seul rayonnement de notre pensée. Nos pensées n'ont pas besoin du vêtement de la parole pour être comprises par les esprits, et tous les esprits perçoivent la pensée que nous désirons leur communiquer par cela seul que nous dirigeons cette pensée vers eux, et ce en raison de leur faculté intellectuelle. C'est-à-dire que telle pensée peut être comprise par tel et tel suivant leur avancement, tandis que chez tel autre, cette pensée, ne réveillant aucun souvenir, aucune connaissance au fond de leur cœur ou leur cerveau, n'est pas perceptible pour eux. Dans ce cas, l'esprit incarné qui nous sert de médium est plus propre à rendre notre pensée pour les autres incarnés, bien qu'ils ne la comprennent pas. Qu'un esprit désincarné et peu avancé ne pourrait le faire si nous étions forcés de recourir à son intermédiaire, car l'être terrestre met son corps comme instrument à notre disposition, ce que l'esprit errant ne peut faire. Ainsi, quand nous trouvons dans un médium le cerveau meublé de connaissances acquises dans sa vie actuelle, et son esprit riche de connaissances antérieures latentes, propres à faciliter nos communications, nous nous en servons de préférence, parce qu'avec lui le phénomène de la communication nous est beaucoup plus facile qu'avec un médium dont l'intelligence serait bornée et dont les connaissances antérieures seraient restées insuffisantes. Nous allons nous faire comprendre par quelques explications nettes et précises. Avec un médium dont l'intelligence actuelle ou antérieure se trouve développée, notre pensée se communique instantanément d'esprit à esprit par une faculté propre à l'essence de l'esprit lui-même. Dans ce cas, nous trouvons dans le cerveau du médium les éléments propres à donner à notre pensée le vêtement de la parole correspondant à cette pensée, et cela que le médium soit intuitif, semi-mécanique ou mécanique pure. C'est pourquoi, quelle que soit la diversité des esprits qui se communiquent à un médium, les dictées obtenues par lui, tout en procédant d'esprits divers, portent un cachet de formes et de couleurs personnelles à ce médium. Oui, et bien que la pensée lui soit tout à fait étrangère, bien que le sujet sorte du cadre dans lequel il se meut habituellement lui-même, bien que ce que nous voulons dire ne provienne en aucune façon de lui, il n'en influence pas moins la forme par les qualités, les propriétés qui sont adéquates à son individu. C'est absolument comme lorsque vous regardez différents points de vue avec des lunettes nuancées, vertes, blanches ou bleues. Bien que les points de vue ou objets regardés soient tout à fait opposés et tout à fait indépendants les uns des autres, ils n'en affectent pas moins toujours une teinte qui provient de la couleur des lunettes. Ou mieux, comparons les médiums à ces bocaux pleins de liquides colorés et transparents que l'on voit dans la montre des officines pharmaceutiques. Eh bien, nous sommes comme des lumières qui éclairons certains points de vue moraux, philosophiques et internes à travers des médiums bleus, verts ou rouges, de telle sorte que nos rayons lumineux, obligés de passer à travers des verres plus ou moins bien taillés, plus ou moins transparents, c'est-à-dire par des médiums plus ou moins intelligents, n'arrivent sur les objets que nous voulons éclairer qu'en empruntant la teinte ou mieux la forme propre et particulière à ces médiums. Enfin, pour terminer par une dernière comparaison, nous, esprits, sommes comme des compositeurs de musique qui avons composé ou voulons improviser un air et n'avons sous la main qu'un piano, qu'un violon, qu'une flûte, qu'un basson ou qu'un sifflet de deux sous. Il est incontestable qu'avec le piano, la flûte ou le violon, nous exécuterons notre morceau d'une manière très compréhensible pour nos auditeurs. Bien que les sons provenant du piano, du basson ou de la clarinette soient essentiellement différents les uns des autres, notre composition n'en sera pas moins identiquement la même, sauf les nuances du son. Mais si nous n'avons à notre disposition qu'un sifflet de deux sous ou qu'un entonnoir de fontainier, là, pour nous, gît la difficulté. En effet, quand nous sommes obligés de nous servir de médiums peu avancés, notre travail devient bien plus long, bien plus pénible, parce que nous sommes obligés d'avoir recours à des formes incomplètes, ce qui est une complication pour nous, car alors nous sommes forcés de décomposer nos pensées et de procéder mot par mot, lettre par lettre, ce qui est un ennui et une fatigue pour nous, et une entrave réelle à la promptitude et au développement de nos manifestations. C'est pourquoi nous sommes heureux de trouver des médiums bien appropriés, bien outillés, munis de matériaux prêts à fonctionner, bons instruments en un mot, parce qu'alors notre périsprit, agissant sur le périsprit de celui que nous médianimisons, n'a plus qu'à donner l'impulsion à la main qui nous sert de porte-plume ou de porte-crayon. Tandis qu'avec les médiums insuffisants, nous sommes obligés de faire un travail analogue à celui que nous faisons quand nous nous communiquons par des coups frappés, c'est-à-dire en désignant lettre par lettre, mot par mot, chacune des phrases qui forment la traduction des pensées que nous voulons communiquer. C'est pour ces raisons que nous nous sommes adressés de préférence aux classes éclairées et instruites, pour la divulgation du spiritisme et le développement des facultés médianimiques scriptives, bien que ce soit parmi ces classes que se rencontrent les individus les plus incrédules, les plus rebelles et les plus immoraux. C'est que de même que nous laissons aujourd'hui aux esprits jongleurs et peu avancés l'exercice des communications tangibles de coups et d'apports. De même, les hommes peu sérieux parmi vous préfèrent-ils la vue des phénomènes qui frappent leurs yeux ou leurs oreilles aux phénomènes purement spirituels, purement psychologiques. Quand nous voulons procéder par dictée spontanée, nous agissons sur le cerveau, sur les casiers du médium, et nous assemblons nos matériaux avec les éléments qu'il nous fournit, et cela tout à fait à son insu. C'est comme si nous prenions dans sa bourse les sommes qu'il peut y avoir, et que nous en arrangeons les différentes monnaies suivant l'ordre qui nous paraîtrait le plus utile. Mais quand le médium veut lui-même nous interroger de telle ou telle façon, il est bon qu'il réfléchisse sérieusement afin de nous questionner d'une façon méthodique, en nous facilitant ainsi notre travail de réponse. Car, comme il vous a été dit dans une précédente instruction, votre cerveau est souvent dans un désordre inextricable, et il nous est aussi pénible que difficile de nous mouvoir dans le dédale de vos pensées. Quand des questions doivent être posées par des tiers, il est bon, il est utile que la série des questions soit communiquée par avance au médium, pour que celui-ci s'identifie avec l'esprit de l'évocateur et s'en imprègne pour ainsi dire, parce que nous-mêmes alors, nous avons bien plus de facilité pour répondre, par l'affinité qui existe entre notre périsprit et celui du médium qui nous sert d'interprète. Certainement, nous pouvons parler mathématiques au moyen d'un médium qui y a l'air tout à fait étranger, mais souvent l'esprit de ce médium possède cette connaissance à l'état latent, c'est-à-dire personnelle, à l'être fluidique et non à l'être incarné, parce que son corps actuel est un instrument rebelle ou contraire à cette connaissance. Il en est de même de l'astronomie, de la poésie, de la médecine et des langues diverses, ainsi que de toutes les autres connaissances particulières à l'espèce humaine. Enfin, nous avons encore le moyen de l'élaboration pénible en usage avec les médiums complètement étrangers au sujet traité, en assemblant les lettres et les mots comme en typographie. Comme nous l'avons dit, les esprits n'ont pas besoin de revêtir leurs pensées. Ils perçoivent et communiquent la pensée par ce fait seul qu'elle existe en eux. Les êtres corporels, au contraire, ne peuvent percevoir la pensée que revêtue, tandis que la lettre, le mot, le substantif, le verbe, la phrase en un mot vous sont nécessaires pour percevoir même mentalement aucune forme visible ou tangible n'est nécessaire pour nous. Éraste et Timothée. Remarque. Cette analyse du rôle des médiums et des procédés à l'aide desquels les esprits se communiquent est aussi claire que logique. Il en découle ce principe que l'esprit puise, non ses idées, mais les matériaux nécessaires pour les exprimer dans le cerveau du médium, et que plus ce cerveau est riche en matériaux, plus la communication est facile. Lorsque l'esprit s'exprime dans la langue familière au médium, il trouve en lui les mots tout formés pour revêtir l'idée. Si c'est dans une langue qui lui est étrangère, il n'y trouve pas les mots, mais simplement les lettres. C'est pourquoi l'esprit est obligé de dicter, pour ainsi dire, lettre à lettre, exactement comme si nous voulions faire écrire de l'allemand à celui qui n'en sait pas le premier mot. Si le médium ne sait ni lire ni écrire, il ne possède pas même les lettres. Il faut donc lui conduire la main comme à un écolier. Et là est une difficulté matérielle encore plus grande à vaincre. Ces phénomènes sont donc possibles, et l'on en a de nombreux exemples. Mais on comprend que cette manière de procéder s'accorde peu avec l'étendue et la rapidité des communications, et que les esprits doivent préférer les instruments les plus faciles, ou, comme ils le disent, les médiums bien outillés à leur point de vue. Si ceux qui demandent ces phénomènes comme moyen de conviction avaient préalablement étudié la théorie, ils sauraient dans quelles conditions exceptionnelles ils se produisent. Fin de la remarque.